Circuit branché, convecteur temporel temporisé.
Maintenant, écoutez-moi très attentivement.
C'était une époque bénie.
Et bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche soir, cette nouvelle émission de Club d'Orloté sur TC13. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Quant à moi, je suis ravi de retrouver Fanny.
Moi, je suis pas ravie.
D'accord.
Bonsoir Alan, bonsoir Tom, bonsoir à tous.
Et Tom qui arrive sur ses 40 ans.
Bah écoute, je suis ravi de vous retrouver, pas d'aller sur 40 ans évidemment.
Qui est ravi d'aller sur 40 ans?
Toi peut-être.
Ceux qui ont plus de 40 ans, qui veulent revenir en arrière.
Bien,
voilà.
C'est vrai.
Merci.
Mais ils nous écoutent pas.
C'est bon, t'en sais rien.
Maman, si tu nous écoutes.
Bah exactement, ma maman qui écoute, tu vois.
Bon allez, on enchaîne.
Je ne suis pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.
Oh non.
Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.
Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.
Ouais.
À chaque annonce, ça râle. À chaque sortie, ça va le voir et ça râle. On se croirait dans cette émission. Les remakes en tout genre, reboot, revival. Oui, Fanny, j'expliquerai aux auditeurs ce que c'est.
Merci,
reboot et revival.
Tom.
Semblent se multiplier. MacGyver est revenu, Magnum aussi, Jumanji, Blade Runner, Men in Black, Scream, Charmed, Vendredi 13, La Fête à la Maison, Punky Brewster et même Walker, Texas Ranger. Sont-ce dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes ou, justement, c'est juste de la soupe fadasse?
J'aime bien ton sens.
Sens, ouais.
Donc, qu'est-ce qu'un revival?
Qu'est-ce qu'un reboot et qu'est-ce qu'un remake?
Alors, remake, ça vient de l'anglais remake, qui veut dire refaire. Donc, on refait quelque chose. Donc, c'était le mot qui était à la mode quand les premiers remakes sont arrivés. Donc, on refait le même film. Et pour les séries, bah, ça arrivait un peu plus tard. Et là, en fait, il y a les reboots où on recommence. Donc, c'est un vrai remake, mais on recommence une série de son début. Alors qu'un revival, c'est on poursuit l'aventure, mais plusieurs années après.
Alors du coup, c'est quoi la différence entre un remake et un reboot?
Il n'y en a pas. C'est à peu près la même chose.
En fait, le remake est plus une nouvelle version d'un même film, alors que le reboot, on va prendre l'univers et on va relancer totalement.
Le reboot, c'est quand quelque chose est vraiment très développé, en fait. C'est comme dans un ordinateur, quand on reboot, c'est après faire beaucoup, beaucoup de choses, on recommence.
En fait, on prend les éléments clés, mais on efface tout le reste. Alors que le remake, c'est quasiment prendre le même film en changeant juste.
C'est souvent des unitaires qui sont refaits, voilà. Des choses comme ça. Quoi. Mais le remake, tu dis remake, c'est la même chose. Quoi. Après, il y a le legacy quel, comme Jumanji, c'est-à-dire une suite, mais avec l'héritage, comme Jurassic World, en fait, c'est une vraie fausse suite. C'est un reboot.
Un vrai faux reboot,
mais
plutôt,
c'est une suite.
C'est ce que trouvait Hollywood pour essayer de vous faire croire que ce n'est pas un reboot.
Voilà.
Donc, t'en as cité pas mal. Juste par contre.
Beaucoup trop.
Oui, beaucoup trop. T'as surtout cité Blade Runner, qui est, alors pour le coup, qui est plus une suite. C'est pas un revival.
Bah, pour ceux qui l'ont.
Si tu mélangeais pas de saut avec les termes.
Pour ceux qui n'ont pas vu le premier, est-ce que le deuxième fonctionne?
Bah oui.
Donc, c'est un reboot. Peu de choses près.
Ou un remake.
Ou un legacy sequel. Après, il y a eu la la série Blade Runner, donc c'est une sorte de remake aussi.
Mais remake, sachant que remake prend aussi au sens large, Hollywood s'en sert comme s'en charge pour parler aussi de nouvelles adaptations. Par exemple, Total Recall, tout le monde a vu ça comme un remake du film, mais là, Hollywood s'en défendu, non, mais c'est plus proche de la nouvelle que le premier
film.
Ça,
quand on adapte un roman, ouais, c'est ça. On reprend le roman, on reprend pas le film.
C'est ça. Mais ce qui a été justement le cas de tous les films de super-héros, on peut penser toujours à des reboots, ouais. Genre Spider-Man, ouais. Alors que non, pour officiellement, ce sont juste de nouvelles adaptations.
Oui, mais alors, quand dans le nouveau Spider-Man, tu reprends des éléments de l'ancienne saga
alors
Spider-Man,
là, oui.
Qu'est-ce que c'est?
Un hommage,
voilà.
selon le terme officiel.
Non, mais c'est vrai que c'est le bordel, on essaie de dire des mots comme ça. Mais
c'est de l'héritage ou c'est des suites, ou, mais en vrai, c'est des reboots. Quoi.
Bon, on essaie toujours de surfer sur quelque chose de connu. Donc.
C'est de relancer la franchise pour les plus jeunes. Un peu ce que fait, alors différemment, mais si, parce que Disney, par exemple, leur version live de leur dessin animé, ce sont des remakes live au final. Parce que c'est refaire le dessin animé, mais en prise de vue réelle. Donc,
ou alors réadapter le conte dont c'est tiré déjà.
Oui, alors quand
rien n'est original chez Disney.
Oui, mais quand tu vois Le Roi Lion, non, Le Roi Lion, c'est un remake du dessin animé. Hein.
Mais tu peux, enfin, je trouve que tu peux pas dire remake. Pour moi, c'est une copie live. C'est une copie. Il y a pas de. C'est la même chose.
Copie avec un Y. Copie.
Ouais. Non, il y a une chanson en plus.
Oui, bah comme dans Aladdin, il y a la chanson pro-féminisme et tout. Mais sinon, c'est une copie. Il y a pas de.
Bah, de toute façon, c'est pas le sujet.
Oui, c'est une très longue intro.
Voilà. Bon, on passe à la suite. Tom.
Oui.
Tom, est-ce que pour toi déjà, est-ce qu'il y a des reboots ou des remakes qui trouvent grâce à tes yeux après 2001?
Ah, tu me pioches comme ça.
C'est étonnant comme phrase. Tu me pioches comme ça.
Ouais,
c'est un peu
bah,
coquinou quand
même. Je sais pas.
Non,
là, comme ça, non, je sais pas.
Tu veux dire que tu n'as pas aimé le reboot de Charme, de Roswell, de Magnum,
non.
De MacGyver.
Non.
Ah ouais, vous avez MacGyver, il commence à trouver son public, je trouve.
Enfin, seul. Alors, c'était Mission Impossible 20 ans après qu'ils ont fait. Donc il y a 40 ans maintenant, ils ont fait un truc de 20 ans après. Parce que même dans les séries, depuis 50-60 ans, il y a eu plein de reboots. Et ça, bon, c'est pas venu trop en France, mais il y a eu beaucoup de séries qui ont été refaites. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas vraiment, mais il y en avait quand même beaucoup. Hein.
Bah, de toute façon, il y a un point aussi qu'il faut souligner, c'est que là, on parle voilà, toujours pareil, années 80-90 versus 2000, mais même les films des années 80-90 étaient déjà beaucoup de remakes. Enfin, ouais. C'est pas nouveau. Là, Scarface ouais. de avec Al Pacino est un remake. The Thing de Carpenter est un remake. Voilà, il y a énormément
bah,
de...
Voilà, The Thing. Je préfère... mieux la version de Carpenter que
oui,
la chose
aussi,
à notre monde.
Mais là, je te parle plutôt de choses justement sorties après 2000. Oh, inspiré des trucs des années 80.
Bah, demande à Fanny. Et puis,
alors moi, en reboot de série, aucune. Parce que ça ne m'a absolument pas intéressé. En revanche, ce n'est pas le sujet, mais les revivals justement de série. C'est-à-dire que on reprend les mêmes... on fait une nouvelle saison, je ne sais pas, 10 ans après, ça me va. J'avais suivi Will & Grace, par exemple. Mais des reboots, non. Ça ne m'intéresse pas. Je crois que j'avais essayé un ou deux épisodes de K2000. Alors, c'était Knight Rider, un truc comme ça.
Oui.
Mais alors, un épisode,
oui.
Je crois. Hein, j'avais pas été plus loin.
Bah, si tu as fait un ou deux épisodes, c'est tombé. C'était ce que comptait
voilà.
La série.
Oui,
c'est
voilà.
Ce que comptait la série.
Mais beaucoup plus.
Non, après, qu'est-ce que... Non, mais après, en film, si. Il y a Jumanji que j'ai bien aimé, je trouve...
Après, c'est une legacy quoi.
Ouais, bon, ça rentre pas encore non plus dedans.
Bah, c'est vrai que ça reprend pas non plus tout le film, quoi. Donc, on reprend le principe, mais c'est tout.
Blade Runner, puisque tu l'as cité, j'ai préféré le nouveau parce que je trouve que l'ancien a pris un sacré coup de vieux et je l'ai vu il y a quelques années. Bah, je l'ai vu juste avant la sortie de Blade Runner de 1049, c'est ça le chiffre. Et j'ai trouvé que ça avait pris un sacré coup de vieux, donc je préférais le nouveau. Même si l'histoire était un peu fatigante. Bref, c'est pas le propos. Mais bah, ça dépend. Ça dépend. T'as cité quoi d'autre ? En série, ça, je sais que non. En film, t'as cité quoi d'autre, Tom ?
Tout ce qui est film d'horreur.
Ouais, bah, ça, c'est pas mon
domaine. Ils auront fait Chucky, ils auront fait Vendredi 13, Freddy.
Ouais, Halloween.
Ouais, mais j'ai cité que ça.
Total Recall, Robocop, Tortue Ninja.
Après, ouais, tous les films cul des années 80 et 90 ont été refaits, à peu de choses près, sauf Gremlins.
Mais je me rends compte qu'il n'y en a pas tant que ça que j'ai vu, en fait, en film. Parce que Tortue Ninja, j'ai dû voir premier. Mais j'avais pas vu le film. Moi, j'étais plutôt dessin animé.
Men in Black avec Chris Hemsworth,
oui,
c'est une sorte de suite reboot.
J'ai pas vu
Legacy.
Legacy, quoi.
Pas vu non plus, tu vois.
Pas vu.
Mais je crois qu'en fait, ça me. J'ai un peu de mal, quoi. Ça m'arrête un peu.
Donc ça fait tellement effet passé de mode en fait. Surtout les Legacy Quell, un peu à la Men in Black justement. Après, moi, j'aime bien quand c'est, pour le coup, plus des adaptations, enfin les reboots adaptations. Mmh. C'est-à-dire, Batman peut être considéré comme un reboot adaptation.
Ouais.
Les Nolan, c'est un reboot de la franchise de Burton Schumacher. Donc.
Moi, je peux t'en citer trois, mais sans les films d'horreur. Le Massacre à tronçonneuse de Marcus Nispel avec Jessica Biel, qui était un remake exceptionnel. Piranha 3D d'Alexandre Aja.
La colline à des yeux.
Très très fun, la colline à des yeux. Et Evil Dead, de je ne sais plus qui. Fede Alvaro, un truc
ouais,
comme ça.
C'est ça.
Qui n'a rien à voir avec le film de Sam Raimi, mais c'est fou. Quoi.
Les films d'horreur sont souvent. Les franchises de films d'horreur sont souvent reprises quand même.
Ouais, et puis. Alors je dis pas souvent meilleur, mais ça dépend. Ouais. Parce que Freddy était pas terrible. Hein.
Mais après, je trouve que ça a un effet. En ce moment, on a pas mal de ça sur les années 80-90. C'est l'effet un peu nostalgie. On le voit avec rien que Stranger Things ou beaucoup d'autres films. C'est qu'il y a un effet. Ben, toutes les années 80 ont été passées au crible. Là, on est en plein dans les années 90. Et petit à petit, ben, les phénomènes de mode de ces années-là, en fait, reviennent totalement sur le devant de la scène. Tu vois, un reboot remake qu'on a par cité, SOS Fantôme.
J'allais te le dire.
C'est vrai.
Moi, perso, version féminine, ça ne m'a pas dérangé. Après, je ne trouve pas ça nécessaire. Mais j'ai trouvé ça regardable.
Mais c'est oubliable.
Mais ça ne vaut pas, le premier SOS Fantôme.
Et là, le prochain aussi qui va être fait, peut-être. Enfin, on n'a aucune image, mais...
Quoi, il y en a encore un autre qui arrive ?
Ouais, ouais, ouais. Jeunes, avec des enfants.
Ah oui,
et
c'est
tout
vrai.
Ça.
Et Paul Rudd. C'est non fini.
Et les enfants de Stranger Things.
Oui, à peu de choses près, il doit y avoir un ou deux du casting. Ouais, Hit. Hit, c'est un très bon remake. Mm-hmm. Bon, c'est une nouvelle adaptation, mais bon, à part le deuxième qui était un peu moins bien. Mais... Après tout, John Carpenter était refait, ça c'est.
Mais même moi, ce que je trouve que bien, c'est que même dans les adaptations, alors il y en a certaines évidemment, voilà, comme je citais les Batman qui trouvent grâce, mais même dans les adaptations, je trouve qu'elles sont toujours faites de mauvaise façon. Enfin, j'ai l'impression que le côté, ouais, non, mais cette fois-ci, nous on suit beaucoup plus le livre que le premier film des années 90, c'est toujours une fausse excuse pour nous sortir un produit totalement aseptisé. Bah, par exemple, Total Recall, qui se vantait de suivre beaucoup plus le livre. Ouais, mais alors, le film est extrêmement mauvais et n'arrive pas du tout à la cheville du premier.
Oui, mais alors, est-ce que le livre n'était pas finalement mauvais ?
Disons
que l'adaptation de Verhoeven a.
Alors après, est-ce que
surélevé l'histoire du livre.
Pour moi, est-ce que déjà le deuxième film
c'est une question que je vous pose, monsieur Alan. Répondez-moi.
Est-ce que déjà le deuxième film était une vraie version du bouquin d'après ce qu'ils vendent? Parce que je pense aussi il y a le principe d'adapter, c'est aussi prendre l'essence de ce que tu adaptes pour la transformer et en faire ta vision d'auteur. Le problème, que ce soit Total Recall, que ce soit même Ninja Turtle, que ce soit mine de rien, Charmed, Roswell, etc., qui essaient toujours de se mettre un peu... Ils essaient juste de faire des versions modernisées, en rajoutant des sujets de société d'époque.
Un peu plus inclusif aussi.
Un peu plus récent et un peu plus inclusif. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que dans le message est hyper formaté. Ils te servent un produit beaucoup plus formaté que l'adaptation d'origine qui pour le coup avait vraiment une vision d'auteur.
Ils essayent de jouer sur une nostalgie mais finalement que t'as plus parce que soit tu changes les acteurs, soit tu changes l'ambiance. Là, Walker, ils ont refait Walker.
Ah bon. Mais sans Texas, c'est ça ?
Mais sans Chuck Norris.
Surtout sans Chuck Norris.
Parce que c'est Chuck Norris qui fait Walker. Après, que ce soit bonne ou mauvaise série, on s'en fout un peu. Mais là, ils ont mis Jared Padalecki de Supernatural. Ça n'a plus rien à voir. Bon, c'est déjà renouvelé après un épisode. Donc, tu vois,
c'est comme un peu MacGyver. Après, j'ai pas vu qui joue la nouvelle version. Mais enfin, sans.
Sans Tom Selleck.
Oui, MacGyver avec Tom Selleck.
Avec Tom
Bravo,
Alan,
tu sors. Tout
à fait. Tout à fait, bien sûr.
Tu sors, Alan.
J'étais sur Magnum. Sans Richard Dean Anderson.
Merci, pardon. Tu vois, c'est pas pareil.
Mais surtout que MacGyver, à l'époque, il y avait un petit mystère sur son prénom, qui s'appelle Angus, on le sait à la tout dernier épisode, et là, dans le reboot de la série, première phrase, bonjour, je m'appelle Angus MacGyver. Hop, comme ça, tu dégages déjà tout le mystère. Le générique, ils te reprennent les trois premières notes du générique original. Ensuite, ils te font une version un peu remixée, techno, dégueulasse.
Ouais, le générique, il était
en fait,
en plus.
Ils ont tout changé. Après, c'est comme Magnum. Et tu prends des trucs, mais est-ce que tu veux revoir Magnum ? Qu'est-ce que tu veux revoir ? Tu veux revoir Tom Selleck ?
Bah, parce que Magnum, tu s'en fiches, c'était Tom Selleck. Enfin, comme
tu veux pas revoir le nom Magnum, refaire Magnum. Après, tu me diras, ils ont refait Hawaii Five-O. Qui a duré, je crois, un peu plus longtemps que la version originale.
Il a duré longtemps, celui-là.
Tu vois, les choses comme ça. Après, on se plaint, mais Charmed et Roswell, enfin, qui regardent personne, quoi. Donc, on les a quasiment déjà oubliés.
De toute façon, c'est pour la nouvelle génération. C'est toi, Alan, qui disais ça tout à l'heure. Hein. C'est pour la nouvelle génération. C'est sûr que c'est pas fait pour nous. Nous, on est tellement habitués à des visages.
Pourquoi reprendre ça, alors, du coup ? Tu vois ? C'est peut-être pour les parents qui disent oui, regarde ça, je regardais ça quand j'étais petit. Regarde.
Bah non, autant leur donner les anciens et bah ouais, autant leur donner des VHS des anciens.
Autant leur donner du coup, de nouvelles histoires.
Mais bah voilà, je pense que comme d'habitude, Hollywood n'a plus d'idées.
Comme dirait très bien Rachel Wells par rapport à James Bond, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'elle penserait d'un James Bond féminin. Elle disait que les femmes méritaient leurs propres histoires. Et je trouve que voilà, c'est très bien. Oui. C'est qu'elle n'a pas besoin d'un James Bond au féminin, puisque pourquoi pas inventer un nouveau personnage pour femmes. Pas besoin d'un... C'était le principe de SOS Fantôme. C'est on mettait des femmes, ou même de... Bon, beaucoup plus tard, mais Ocean 8, on mettait des femmes dans les mêmes rôles que tenaient les hommes. Mais en fait, vous pouvez faire un film de braquage ou un film de chasse aux fantômes, mais... N'essayez pas de copier le premier film, en fait. Faites votre propre histoire. Ça valait mieux qu'une copie, quoi.
Énerve-toi, Alan.
Je m'énerve.
Et là, bah, prochaine série, donc je l'ai citée, c'est Punky Brewster, qui avait été annoncé il y a quelques années. Donc là, ils reprennent. C'est exactement la même actrice, c'est Solène Moonfry, qui joue maintenant.
Joue la mère, je parie.
Qui joue la mère, une mère célibataire qui doit élever ses enfants, comme dans La Fête à la Maison qu'ils ont refait. Enfin, c'est. Et tu vois la bande-annonce, tu dis oui, mais c'est... non. Oui, elle s'appelle Punky, mais bon, voilà. Ça n'a rien à voir, c'est pas pareil. Elle a peut-être ses baskets, ok, mais il n'y a pas le chien, il n'y a pas son grand-père. Enfin, non, c'était pas son grand-père, c'était je ne sais plus quoi. Elle est plus petite, enfin, c'est plus du tout la même chose. Donc oui, tu veux savoir ce qu'elle est devenue peut-être, mais est-ce que tu veux regarder vraiment ça ?
Les seuls, je trouve, reboots qui sont valables actuellement, sans fausse note, ce sont les animes japonais. Puisqu'en fait, ils refont, mine de rien, quand on a parlé un peu de Club Dorothée, mais on avait des animes très... très censuré, pas franchement fidèle au manga. Et maintenant, ils ont tendance à justement revenir... tellement à l'esprit du manga. Je prends par exemple la nouvelle version de Captain Tsubasa qu'on connaît sous Olive et Tom, la version de Captain Tsubasa qui est beaucoup plus, enfin la nouvelle version qui est déjà graphisme modernisé évidemment, mais qui est surtout beaucoup plus proche du manga, qui gomme aussi les défauts un peu dont on aimait bien rigoler, mais voilà, c'est fini les terrains de 6 km de long, et pour le coup voilà, ça c'est plutôt des bons vents de fraîcheur, j'ai envie de dire.
Est-ce que la question c'est est-ce que les remakes étaient mieux avant, c'est ça la question?
C'est ça. Ah bah, mais du coup,
parce que bon, du coup, je ne sais pas. We get the best of both worlds. The fastest reflexes modern technology has to offer, onboard computer-assisted memory, and a lifetime of on-the-street law enforcement programming. It is my great pleasure to present to you RoboCop. He's not a guy, he's a machine. Old Detroit has a cancer. Cancer is crime. Let the woman go, you are under arrest. You better back up, pal! Your move, creep. What are your prime directives? You have the right to remain silent. You have the right to an attorney. What is this shit? Anything you say may be used against you. He's a cyborg, you idiot. He recorded every word you said. You're dead. We killed you. His memory's admissible as evidence. You're gonna have to kill it. For God's sake! RoboCop, the future of law enforcement. Et si je vous disais que même les quartiers les plus dangereux de notre pays pourraient être totalement sécurisés? Comment je le sais? Parce que c'est précisément ce qui se passe en ce moment dans tous les pays du monde, sauf dans celui-ci. C'est fantastique de voir des machines américaines faire régner la paix hors de nos frontières. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser ces mêmes machines ici, chez nous? Pourquoi l'Amérique est-elle si profondément robophobe? Il est en train d'échapper à notre contrôle. Désactivez-le!
merci de votre collaboration.
Non, non, mais ce que je voulais dire, c'est que, c'est que souvent, les nouvelles versions, en tout cas, la différence vraiment entre les remakes qui se faisaient dans les années 90 des anciens films et ceux qu'on fait maintenant des films des années 90, c'est qu'on en enlève toute la partie vraiment subversive, de, et surtout chez Verhoeven, où, où en fait, toute la violence, toute la, la noirceur d'un Robocop, c'est en fait on a l'impression de partir d'un la critique peut être pensée similaire parce que c'est toujours une critique un peu de des conglomérats qui possèdent un peu les flics, mais dans une partie il y en a un où on a vraiment ce côté noir, ce côté qu'est-ce que ça entraîne en fait la transformation d'un homme en robot et en plus chez les flics, et de l'autre en fait c'est juste l'impression d'être un produit McDonald's en fait, où Robocop est transformé en produit McDonald's. Et en fait, je trouve que, enfin, moi, ça, c'est ce qui m'embête en fait le plus, c'est de me dire, il y avait vraiment des visions d'auteurs qui se réappropriaient une histoire, et que maintenant, en fait, on donne ça au premier venu en disant, bon bah voilà, tu vois ce film-là, tu m'en refais une nouvelle histoire, juste tu me fais un cahier des charges. Et je trouve que maintenant, c'est très hollywoodien et c'est très problématique, je trouve.
Et je réponds quand même à la question que tu as posée avant les bandes annonces. La première bande annonce, c'est le reboot, et la deuxième c'est le premier Robocop, parce que tu l'as pas dit aux auditeurs quand même.
Oui, bon, il y avait quelques indices.
Attends, je vais vous dire un truc. Oui, donc alors
il y avait quelques indices.
Mais ouais, mais bon.
Mais oui, bien vu Fanny. Bon, et ben puisque c'est comme ça, on
allez,
je me casse, c'est ça. C'est ça.
Bah non, mais vous pouvez aller aux toilettes, on fait une petite pause pub.
Bougez pas d'ici, je reviens. We'll be right back.
Et on est de retour dans le club d'Orloté sur TC13 et c'était Billy Joel, You're Only Human, que vous avez pu entendre par exemple dans The Boys.
Par exemple.
Par exemple, notamment, pour la nouvelle génération. Et puis bah, on passe à la carte.
T'entends
blanche.
Le bruit des rames.
Ouais.
Alan, oui. Qui est mort aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la meilleure série au monde. Quoi, Alan, tu vas nous parler de Buffy? Non, même si je finirai par en parler avant la fin de la saison.
Il y a du monde dans sa tête quand même.
En plus, on aurait pu le dire, tu vois.
Mais non, mais je vous anticipe, je vous anticipe. Donc oui, effectivement, on va parler de Buffy avant la fin de la saison parce que c'est dans mon top 3 et que cette série est indispensable. Mais c'est pas le cas, on va revenir à nos moutons et plutôt aux chauves-souris.
Et... Ça va, Fanny,
sinon en 92, Bruce Timm et Paul
Dini... Je compte dans ma tête le nombre de fois où Alan va bafouiller.
En 92, Bruce Timm...
Je ne l'ai pas encore fait, laissez-moi tranquille. En 92, Bruce Timm et Paul Dini créent
Batman The Animated Series. Pendant 4 saisons...
Créent le meilleur Batman, la meilleure série d'animation et, comme je le disais plus haut, la meilleure série tout court. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est ma carte blanche, je dis ce que je veux. 3 saisons... 85 épisodes entre 92 et 95, sans compter une quatrième en 97, mais tellement différente, surtout graphiquement, que je la considère davantage comme une autre série.
Comme un reboot.
Par exemple. Non, une legacy. Objet de commande faisant le pont entre les films de Burton et ceux de Schumacher, avec l'introduction par exemple de Robin, Batman a su créer sa propre mythologie et a gagné sa place au Panthéon en récupérant même un Emmy Award au passage. Il faut dire que Timm et Dini ont bénéficié d'une grande liberté créative qui leur a permis de réinventer de nombreux personnages de l'univers tout en créant de nouveaux. Car oui, si vous l'ignorez encore, la célèbre Harley Quinn, personnage ultra populaire de la franchise, est née dans la série. Et si pour vous, Mark Hamill, c'est Luke Skywalker, pour moi, c'est la voix d'un clown prince du crime.
Bon. Respire, Alan, respire.
Bon, j'abuse un peu. Je suis bien parti. Et puis...
Oui, mais respire, t'as pas un train à prendre.
Bon, j'abuse un peu parce que je regardais en VF et à l'époque, donc le Joker, c'était surtout la voix de Doc du Retour vers le Futur. Mais qu'est-ce qui fait d'elle une excellente série? Peut-être sa bande-son unique, accompagnant chaque épisode. Peut-être sa mise en scène, jouant sur les ombres et les contre-champs, comme lors de la mort des parents de Dick Grayson. Peut-être son écriture, dépeignant un univers sombre, mélancolique, laissant parler la psychologie des personnages davantage que leurs actions. Peut-être parce que derrière son genre presque péjoratif de dessin animé, c'était une série extrêmement mature, qui ne parlait pas à l'enfant qui regardait, mais à l'adulte qui allait devenir. Ou peut-être parce que ça m'amuse de voir que l'autographe de Bruce Timm sur mon coffret peut se lire vite.
Ça y est, fille ?
Oui, c'est bien, parce que l'autographe, oui,
Et ça se lit vraiment vite, vous pouvez le voir.
Oui, bah moi, je n'étais pas très attiré par ce dessin animé.
Toi, c'était Superman, l'ange de
bah
micro-pé.
Ouais, mais c'était bien après. Enfin, c'était 3 ans, 2-3 ans après, je crois. Mais je sais pas, c'était peut-être trop sombre pour moi à l'époque et ça m'intéressait pas trop. Mais c'est vrai que beaucoup le considèrent comme une excellente série, mais j'ai pas revu depuis. Hein.
Bah, alors moi, je l'ai revu plusieurs fois et quand je vois surtout les gens qui ne l'avaient jamais vu, qui le regardent aujourd'hui, qui le découvrent aujourd'hui et leur réaction, ben vraiment, c'est... même maintenant, genre c'est... les qualités sont toujours saluées et ça fait vraiment, enfin, ça n'a pas vieilli d'une.
Et c'est vrai que j'ai su il y a très peu de temps que la quatrième saison, en fait, n'avait quasiment rien à voir graphiquement, que beaucoup de choses avaient changé, le Joker avait changé.
Bah, en fait, c'est
tous
beaucoup
les méchants,
plus proche
quasiment.
Des. Bah, en fait, c'est tous les graphismes, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus proche des dessins de Bruce Timm.
Ouais.
Donc, en soi, le lien y est. Enfin, le même, c'est vraiment une suite de la série, mais c'est vrai que le changement graphique est assez percutant et ça fait extrêmement bizarre quand t'as
l'habitude. Et ça s'appelle pas Batman et Robin la saison 4 ou un truc comme
alors
ça?
Alors non, ça c'est déjà dès la saison 2 je crois, ouais. Parce qu'en fait voilà, fallait vraiment faire le lien avec le film Batman Forever. Mais même d'ailleurs c'est là où on voit aussi dans les changements des personnages, puisque si Catwoman est blonde au début dans la série, c'est parce qu'il fallait faire le lien avec Burton.
Ah
alors
oui.
Qu'après elle devient brune justement dans la quatrième saison comme le personnage de base. Donc il y avait, en fait c'est vraiment à la base le produit de commande, mais que les créateurs ont eu totalement la liberté aussi de réécrire à leur sauce, et c'est ça qui a fait beaucoup le talent de cette série. Moi, je me souviens surtout des jeux au McDonald's qui donnaient de la série. Je les avais tous.
Et merci pour Harley Quinn.
Et merci pour... Bah, Hollywood dit merci aussi pour Harley Quinn, parce que depuis, je pense qu'ils essayent à mort de la rentabiliser. T'as un souvenir, toi, de cette série, Fanny?
Non,
pas du tout.
Je ne regardais pas.
Et je vous conseille aussi la vraie legacy séquelle qui est Batman La Relève.
Ah oui.
Qui est aussi excellente.
C'est Batman Beyond ou ça n'a rien à voir?
C'est la même chose. C'est en anglais, oui.
Ah, excuse me.
Genre, tu l'as découvert en anglais. Bon, ouais, bah sur ce, c'est l'heure du duel.
Allez. À ma droite, un volcan qui se réveille et Pierce Brosnan se sauve avec ses petites jambes. On est en février 97 et le film engrange un petit 70 millions de dollars pour un budget de 115. À ma gauche, un volcan se réveille en plein milieu de Los Angeles et Tommy Lee Jones sauve les autres avec ses petites jambes. On est en avril 97 et le film engrange 50 millions de dollars pour un budget de 90. Qui du pic de Dante ou de Volcano a la coulée la plus cool?
Oui, oui, voilà. Je vous le donne.
je suis là, vas-y,
tu es circonspect.
Ah ouais, là je sais pas. Et, je vous laisse.
Alors.
Déjà c'est quoi l'histoire?
Il vient de le dire.
Non, mais c'est vrai que Volcano, moi j'ai mis du temps à le voir parce que je crois qu'il était considéré comme un peu moins bon que le Pic de Dante à l'époque. Je crois que le Pic de Dante, je l'ai vu au cinéma parce que c'était la grande époque des films catastrophes après Independence Day, Twister, choses comme ça, Daylight. Et Volcano, c'est quand même un volcan qui se réveille en plein milieu de Los Angeles, le truc improbable. Donc
parce
j'ai.
Parce que le Pic de Dante, c'est pas ça?
C'est un volcan lambda en fait. C'est sur une île,
ouais.
C'est un volcan lambda avec un petit village à côté.
Quand même entre les deux.
Et non, le Pic de Dante, moi je crois que celui que j'ai vu le plus. Pierce Brosnan, c'était vraiment sa grosse période après GoldenEye. Donc après, il n'a pas fait non plus d'énormes films, Pierce Brosnan, mais ouais, il y avait quand même Linda Hamilton.
C'est ce que j'allais dire.
James Bond et Sarah Connor contre un volcan, bon pourquoi pas. Non, Pic de Dante, c'est cool, c'était très très bien foutu. Je me souviens de la scène de la petite grand-mère sur sa barque.
Pareil, c'est la seule scène dont je me souviens vraiment bien du film.
Qui veut sauver, elle va dans l'eau et l'eau en fait est bouillante, donc elle se crame les jambes.
En fait, la barque ne bouge plus, donc elle pousse la barque pour les sauver en fait.
Ouais.
Mais du coup, elle se crame en même temps.
Mais les effets spéciaux étaient super cool pour l'époque. Il y a beaucoup de practical effects, c'est-à-dire des effets de maquettes et choses comme ça. C'est pas que de l'ordinateur. Et alors que Volcano, alors là, c'est du pur ordinateur, donc c'est un peu vieilli. Et c'est Tommy Lee Jones qui essaye de sauver une partie de Los Angeles, parce qu'en fait, ça touche Los Angeles, mais tout le film se concentre sur une rue.
Oui, parce qu'ils essayent d'arrêter la coulée de lave.
Bah oui, mais la coulée de lave va partout dans la ville.
Bah oui, mais ils sont cons, hein. Ils pensent que ça va que dans une rue. Tu sais, c'est comme le nuage de Tchernobyl, voilà. Il s'arrêtait aux frontières, bah là,
mais,
c'est pareil.
Mais vous n'avez pas compris, en fait, c'est le Los Angeles univers où, en fait, de l'autre côté, pour sauver le reste de la ville, il y avait Dwayne Johnson avec son hélicoptère. Enfin, c'est ça.
Mais pourquoi pas? Il y a peut-être une bande-annonce comme ça qui...
qui réunit les deux films, il pourrait.
Mais c'est vrai, donc.
Et puis au milieu, t'as quatre selles dans une prison.
Et t'as Stallone dans Daylight, dans un tunnel.
Ah, mais c'est pas Los Angeles, là.
C'est vrai. Et en fait, ils essayent de mettre plein de poteaux, des barrières, des voitures pour arrêter la lave. Et en fait, pendant une heure et demie, c'est ça. Et il y a des sauvetages à la con où ils sautent de. Enfin, Tommy Lee Jones, c'est pas non plus l'acteur que je préfère. Je préfère quand même Pierce Brosnan, même si c'est. Bon, c'est à peu près le même genre d'acteur. Mais non, Pic de Dante, j'ai de meilleurs souvenirs.
Même genre d'acteur. Est-ce que Pierce Brosnan a joué dans Piège en haute mer? Non, voilà. Est-ce que Pierce Brosnan s'est battu contre Steven Seagal? Non. Donc.
Oui, mais James Bond.
Ouais, c'est pas faux.
Voilà. Et non, bah après, c'est les films catastrophes des années 90, donc c'est assez généreux, c'est assez bourrin, ça se termine bien. Donc j'ai légère préférence pour le Pic de Dante quand même.
Et toi, Fanny, Volcano ou Pic de Dante?
Ouais, c'est comme choisir entre la chaussure gauche et la chaussure droite, quoi.
T'as vu comment elle est aujourd'hui?
Mais en même temps, c'est les mêmes films, qu'est-ce que tu veux?
Pas du tout. Pierce Brosnan, je l'ai dit. Bah... Pierce Brosnan, Tommy Lee Jones. Alors oui, c'est la même chose, mais non.
Oui, bah laisse-moi finir.
Oui.
Oh, non, mais, non. Mais c'est quand même les mêmes films, de Dieu.
Non, il y en a un, il s'appelle Pic de Dante. Viens, c'est Volcano.
Tu vas te manger mon micro, Tom, tu vois.
Dante's Peak en anglais.
Bah, Pic de Dante parce que James Bond dedans, quoi. Pierce Brosnan, je pense que c'est celui que dont je me souviens le mieux, mais non, parce que les deux sont brumeux.
Puis c'est le même film.
Exactement. C'est exactement le même film. En revanche, je trouve qu'on faisait de meilleurs films catastrophes à l'époque. Parce qu'il y avait de l'action. Il y avait plus d'action. Tu mettais pas 2 ans à démarrer. Et surtout, il ne fallait pas 3 heures pour avoir ta catastrophe. Quoi. Ça démarrait assez vite.
C'était vraiment l'homme contre la catastrophe. Les gens contre la catastrophe.
Tu avais le même schéma. C'est la petite catastrophe, la plus grande, l'énorme, le sauvetage.
Ouais, mais maintenant, des fois, c'est...
On est sauvé. Ah bah non, on n'est pas sauvé.
Ouais. Maintenant, tu tournes autour du pot, tu te balades, tu vas te promener, machin, et hop, il commence à y avoir des petites merdes, comme on dit. Mais je trouve que c'était plus sympa. Il y avait plus d'action. Et donc Pic de Dante pour Pierce Brosnan, même si j'ai si je l'aime bien Tommy Lee Jones, mais il est bien dans Men in Black, quoi.
C'est tout.
On va le laisser là-bas.
Dans Le Fugitif aussi. Ouais.
Non, ils sont sympas tous les deux, mais...
Et dans Piège à votre mère.
Et toi, Alan?
Et toi, Alan?
Alors, avant de me prendre la parole, j'ai envie de poser une autre question à Fanny. Astérix ou Lucky Luke?
Donc, Alan, voilà. Pic de Dante ou Volcano?
Bah, moi, je vais vous donner ma réponse en audio.
Normal, on est en la radio. Et qu'on lit... Je vais vous la donner en image, tant pis.
Et surtout qu'en son, il n'y a rien du tout.
Avec lui, c'est la nuit en plein jour. L'air qui devient feu. Rien au monde n'a autant de puissance. Dans la ville du Pic de Dante, un volcan change la nature en cauchemar.
Attends, alors, si, moi j'ai une vision effroyable devant moi, j'ai Alan.
Encore une. Alors, elle a pas arrêté de me vanner.
Le Pic d'Alan.
Moi, ce que j'aime bien, c'est que toi, encore une fois, Tom embête Fanny, et Fanny, depuis le début, c'est moi qui prends.
Oui, mais elle était belle, celle-là, quand même.
Non, mais.
Toi... Volcalan.
Mais. Le Pic d'Alan, c'est bien, j'aime bien.
Je pensais Volcalan. On dirait un médicament en plus.
Oh, je vais vous mettre 2 boîtes de Volcalan.
Bref.
Oui, brefons.
Non, mais alors déjà, de base, si je devais préférer l'un des deux, ce sera le Pic de Dante par sa bande-annonce, parce que je trouve que la voix off est beaucoup plus cool.
Super, le mec. C'est meilleur film, la bande-annonce est mieux.
Non, mais...
Super. Non, parce que la voix off de la bande-annonce, elle est cool. C'est mieux.
Non, mais clairement, le Pic de Dante, parce que tous les arguments qu'a balancé Tom, c'est que moi, c'était cette époque, je découvrais Pierce Brosnan dans GoldenEye, que j'avais adoré. Linda Hamilton, c'était Terminator, que j'adorais. Donc rien que ces deux éléments-là font que, voilà, encore une fois, c'est...
C'est son dernier grand film, Linda Hamilton. Enfin, elle n'a pas fait non plus...
Mais à l'époque, elle était encore là, quoi.
Et c'est quand même réalisé par un mec qui... Voilà, Roger Donaldson pour le Pic de Dante, qui a fait des petits films, qui n'a pas fait d'énormes bons films, mais qui a fait Cocktail, La Mutante.
Ah, La Mutante. La Mutante. Ah, Natasha Henry.
Après, il y a eu Pic de Dante, puis après, il n'y a plus grand-chose. Hein. C'est des petits braquages à l'anglaise, vous voyez encore. Alors que Volcano, c'est un petit réalisateur pas du tout connu. Fait ça, c'est Mick Jackson, qui connaît personne. Si, il a fait un grand film, il a fait Bodyguard. Et Volcano, comme quoi. Bah, le mec est là, et ok, je prends.
Moi, j'ai envie de dire, croisons-les.
C'est vrai.
Il faut le même... si tu croises les deux, ça fait quoi? Ça fait Titanic. Voilà. C'est Titanic.
Mais donc, alors, on compare les deux, mais ils sont quand même sortis à quelques mois d'intervalle. Et Pic de Dante a eu l'avantage de sortir un peu avant. Donc il a un peu mieux marché, mais ça n'a pas été une immense succès non plus.
Le fait que Pierce Brosnan était le James Bond actuel, ça a
fait... Oui, mais bizarrement, ça a pété un carton.
Oui.
Il y avait beaucoup de doublons dans les films. T'as eu Deep Impact et Armageddon pour la météorite. T'as eu Pic de Dante, Volcano. T'avais Mille et une pattes et Fourmise. Enfin, tout Hollywood essayait de faire à chaque fois la même histoire. Et c'est celui qui sortait en premier qui, généralement, avait l'avantage. Bon, pas souvent, parce que Armageddon a explosé Deep Impact. Mais peut-être qu'on fera Deep Impact contre Armageddon. Faudrait même que... si on sait tous que...
Faudrait que je voie Deep Impact. Donc, victoire Armageddon, parce que j'ai pas vu Deep Impact. Ah. Ok, ben puisque vous avez peut-être rien d'autre à... Oui.
Non, bah voilà. Non.
Bah non, mais victoire écrasante du Pic de Dante, hein, tout simplement. Allez, c'est la pause.
Bougez pas d'ici, je reviens.
Nous étions jeunes et larges des peaux. Bandit joyeux, insolent et drôle. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again. Au petit jour, on quittait l'Irlande. Et derrière nous s'éclairait la lande. Il fallait bien un jour qu'on nous pende. On the road again, again. 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 Des fleurs sauvages, n'y pense plus, tu es de passage. On the road again, again. On the road again.
Et on est de retour dans le club
d'Orloté. Ah,
dans le club d'Orloté sur TC13. Et qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Fanny?
Bernard Lavilliers avec On the Road Again.
En tout cas, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, rien que pour nous dire déjà Volcano ou le Pic de Dante. On est curieux d'avoir vos avis. Et tout de suite, on passe au coup de pied dans le culte.
Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
1993, alors que Superboy s'est terminé il y a quelques mois à la télé, Superman revient à la télé. Justement, avec Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. 4 saisons d'aventures, de romances, d'action, d'une série qui a marqué son époque, qui a mis en avant un personnage féminin, qui a remis Superman quasiment au second plan. La série n'est qu'une énième adaptation du super-héros de chez DC Comics, mais est-elle la plus marquante ?
Loïc
Éclair. Ah, les mardis soirs.
Voilà. Alors, faut savoir que déjà que ce Tom est le plus grand fan de Superman.
De Châtillon.
Juste de Châtillon.
Moi, juste de Châtillon.
Il a quand même tout un mur d'objets Superman. Donc, bah, je vais commencer par toi.
Et un tatouage de Superman.
C'est vrai. Et un t-shirt et plein d'autres trucs et je veux pas savoir le reste. Qu'est-ce que. Est-ce que c'est toujours
un slip rouge, effectivement.
Oui, moi, j'ai le même, je m'en fous.
Mais du coup, vous mettez le collant dessus ou dessous ?
Bah, ça dépend. Quel Superman je veux être. Allez, enchaîne. Alors, Fanny, Loïs ou Clark ?
Mais non, c'est à toi qui posais la question.
Allez, Alan.
Mais je t'ai posé la question.
Oh, t'attends, Tom. Hein.
Ah, oui ?
Est-ce que c'est toujours aussi culte ?
Alors, culte, oui, parce que ça fait partie de... Non, mais... Bah...
Non, oui.
Mais non, mais culte, oui, culte, parce que ça a marqué son époque. Mais après, est-ce que c'est une grande série ? Je dirais non, parce qu'elle a quand même beaucoup vieilli. Même si à l'époque, elle a quand même changé quelque chose, parce qu'elle a mis en avant un personnage féminin, donc Lois. Et elle a mis Superman au second plan. C'était vraiment là, l'époque où il y avait Scully, Xena, Buffy... donc Lois, Ally McBeal ensuite, il y a eu des personnages féminins qui sont un peu mis en avant et Lois et Clark a fait partie de cette époque là mais malheureusement ça a vieilli techniquement parce que les effets spéciaux ont quand même pris un coup de vieux, l'image aussi parce que ça n'a pas été remasterisé et ça pique les yeux aussi, et puis les histoires sont quand même très même si on met en avant la femme, ça reste quand même très cliché, je dirais pas sexiste, mais enfin très homme-femme, on et reste pour... vraiment dans le cliché.
Et pourtant, c'est une showrunneuse.
Oui, mais il y avait quand même des... le studio derrière.
Les clichés des années 90.
Oui, voilà. Mais ça reste encore regardable, évidemment. Il y a de très bonnes histoires, il y a une très bonne histoire d'amour. Et comme toujours dans ces séries-là, quand il y a un couple qui se tourne autour, dès qu'ils se mettent en couple, c'est moins bien. Et Lois et Clark est moins bien quand ils se mettent en couple.
Sachant qu'ils se sont quand même mis en couple très tôt, c'était aussi la différence.
Bah, très tôt, c'est oui, voilà, c'est-à-dire que...
4
oui.
saisons, là, Demande en mariage, en fin de saison 2, donc...
Oui, mais t'avais quand même... Enfin, la saison 2 était bien, parce que t'as ce secret-là. Ce que j'adore, moi, dans Superman, enfin, j'adore surtout le couple, c'est la façon dont tu traites cette histoire d'amour d'une femme qui est totalement aveuglée par un super-héros et qui, à côté d'un mec, a juste une paire de lunettes et qu'elle voit pas, quoi, alors que c'est le même mec. Mais l'histoire d'amour, j'aime beaucoup.
Mais la demande en mariage est très belle en plus.
La demande en mariage est très belle et ça s'arrête sur une image arrêtée. Je me souviens tellement de ce moment-là. Et la suite en saison 3, bah, ça retombe un peu. Et après, tu sais. Bon, on peut spoiler ou pas ? Oui, on peut spoiler. Lois sait que Clark est Superman. Donc là, tu perds un petit peu de quelque chose de magie. Donc la saison 3, c'est la préparation du mariage, elle essaie de le protéger, tout ça, et ils essayent après, tous les 5 épisodes, de relancer une machine qui est déjà un peu moins bonne. Et après, bah, la saison 4, c'est déjà beaucoup moins bien, et la série, à cette époque-là, sur ABC, a été déprogrammée, reprogrammée l'été, enfin, les gens
ABC
sont barrés
n'importe
aussi.
Quoi. ABC a fait n'importe quoi avec la diffusion.
Les gens étaient là, saison 3, ils
oui,
aimaient mais
pas
beaucoup,
la 4,
mais après, oui... C'était moins bien, fatalement.
Sachant que ça finissait sur un cliffhanger, puisque...
Alors, saison 3...
Non, la saison 4, je parle.
Oui. Alors, par contre, la saison 3, donc, il y a une histoire aussi de clone avec Lois. Donc là, c'était un peu grand guignol, mais c'était quand même un petit peu intéressant. Donc, il s'est marié avec un clone. Et ensuite, il y a les Kryptoniens qui arrivent en fin de saison 3. Il doit repartir. Ça, je me souviens très bien de ce jour-là, parce que ma télé ne marchait plus. J'avais que le son. Et j'entendais « Lois, Lois, je t'aime ». Avec une neige à l'écran. Ça, la neige, on ne l'a plus, ça, maintenant. Voilà.
Non, on l'adore, maintenant.
Très bon, Fanny.
Mais oui, parce qu'on parlait de la demande en mariage, il faut savoir que, justement, là, cette fin de saison 2, en fait, quand tu lui fais sa demande, elle lui dit, voilà, le dernier mot de Lois, c'est « Mais qui me demande, Clark Kent ou Superman ?»
Non.
Si.
Ça, c'est, ils l'ont repris pour la saison 3, ça.
Ah, c'est le
la
début
saison
de la saison
2, ouais, en fait, la saison 2,
ah,
ça mais avant sa réponse. Et c'est avant le générique de la saison 3, dit oui, c'est Clark ou Superman.
Oh, ça aurait été mieux de finir là-dessus,
bah,
tu vois.
C'est vrai.
Clairement. Mmh. Ah, c'est nul. Du coup, ah, c'est nul. Mais avant de passer la parole à Fanny, une question par. Est-ce que Dean Cain est un bon Superman ?
Alors, j'ai parlé du casting, parce que Dean Cain et Terry Hatcher est exceptionnel.
Superman. Reste sur Superman.
Après, bon, Superman... En fait, vu que c'est un Superman un peu kitsch, entre guillemets, enfin, il fait pas de grandes choses, il est juste... voilà, il fait une petite scène d'action, 2-3 minutes par épisode. Moi, c'était plus un meilleur Clark Kent qu'un bon Superman. Mais c'est un bon Superman.
Et Fanny...
Et c'est une bonne Lois.
Fanny, est-ce que déjà la série pour toi était culte?
Bah, à l'époque, c'était culte. Moi aussi, j'ai regardé tous les épisodes. Vous m'avez rafraîchi la mémoire parce que je me souvenais pas de tout ça. J'attendais qu'une chose, moi, c'était que le grand moment où ils allaient se mettre ensemble, Lois et Clark, forcément. Et je trouvais Dean Cain relativement charmant à l'époque. Vous, c'était Terry Hatcher, bah, moi, c'était lui, hein, forcément. Et j'ai loupé aucun épisode. C'est vrai que quand il y a eu le mariage, je me souvenais même plus qui s'était marié avec un double, tu vois.
Qui mangeait des grenouilles.
Tu l'as regardé plus d'une fois, toi, c'est ça? Ou t'as une super mémoire?
Ouais. J'ai une super mémoire.
Non, tu l'as regardé plus d'une fois. c'est vrai que c'est devenu moins intéressant, mais c'est souvent le cas dans beaucoup de séries quand les héros finissent par se mettre ensemble et qu'il n'y a plus vraiment de secret entre eux. Pour après faire continuer les épisodes et les saisons, c'est plus compliqué. Mais c'est pas culte en soi maintenant. C'était culte à l'époque parce que. On va pas se le mentir, c'est un peu comme l'anneau d'enfer. On a tous regardé Lois et Clark, je pense. Oui, culte à l'époque, mais pas maintenant.
Et est-ce que Terry Hatcher est une bonne Lois?
Oui, moi je trouvais que le duo marchait bien en plus. Moi j'aimais bien. Moi je vais dire oui.
C'est pas la meilleure, mais elle est très bonne.
C'est qui la meilleure?
Erika Durance dans Smallville. J'aime beaucoup.
Ah, je suis en train de faire un rewatch, donc je suis tout à fait d'accord.
Mais c'est surtout la saison, quand elle est vraiment Lois, la saison 8-9.
À partir de la 8.
Et toi, Alan?
Alors, moi, je suis d'accord sur le fait qu'elle est mal vieillie. Par contre, pour moi, elle est culte parce qu'elle a traité Superman d'une manière toujours. Enfin, qui reste encore inédite. C'est-à-dire que bah, le fait que ce soit une showrunneuse, et rien que le titre, en fait, le titre Superman, c'est la fin du titre. C'est oui. Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Superman arrive à la fin. Lois est la première dans le titre. Il y a un truc très... effectivement, comme disait Tom, il y a toujours un peu de clichés, toujours un peu de stéréotypes, mais il y avait un truc comme très féminin. Et le fait que l'histoire d'amour, en fait, le fait qu'elle sache très vite, au final, au milieu de la série, qui il est, ça peut déranger, parce qu'on a l'habitude de la double identité, mais moi, je trouve ça très intéressant, puisque tu voyais Superman comme tu ne l'avais jamais vu, dans le sens que là, il va devoir... Parce que Superman, justement, avait toujours un peu cette... Le personnage avait, même dans les comics, toujours un peu cette peur de dévoiler son identité pour... parce que ses proches vont être mis en danger. C'est-à-dire ce qu'il lui dit quand il la demande en mariage. Mais voir justement Superman essayer de vivre cette vie de famille qui, à la base, il n'y avait pas vraiment le droit, enfin, c'était toujours cet amour un peu interdit, épouser un peu ce côté humain, je trouvais ça assez fascinant, et voir comment ils allaient du coup régler ces problèmes-là, y compris leurs problèmes d'enfants, parce que du coup, comme des humains normaux, ils veulent des enfants. Il peut pas, et en fait voilà, ça se règle par un Deus Ex Machina en fin de saison 4 justement, et du coup on est tous dégoûtés de pas voir la 5, puisqu'en fait à la 5 ils avaient des enfants, enfin ils avaient des enfants à la fin du 4, mais bref. Mais
c'est ce que j'ai demandé, il y avait pas une histoire d'enfants?
En fait c'est un cadeau que leur fait les dieux kryptoniens ou son père, je sais plus exactement, mais en fait la dernière épisode de la saison 4, ils ouvrent la porte, il y a un bébé qui les attend, et c'est leur bébé en fait. Et en fait, la saison 5 devait être sur justement l'éducation de ce bébé, comment t'éduques le fils de Superman. Mais du coup, ça ne s'est pas fait.
Oh, c'est la cigogne kryptonienne, elle est sympa quand même.
Ouais. Et c'est ce qu'on aura, je pense, dans justement la nouvelle série qui s'appelle Superman et Lois. Donc, comme quoi,
oui,
là, ils vont remettre le titre.
Ouais.
Dans un reboot ou dans un remake?
C'est une nouvelle adaptation. Et Clark et Lois sont en couple. Elle connaît le secret, donc déjà. Oui, comme dans Man of Steel, en fait, elle connaît le secret quasiment tout de suite, c'est un peu moins bien. Et ils ont deux gosses, donc voilà. C'est...
Mais non, et c'est surtout que moi, Lois et Clark, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est que moi, je rigolais toujours de ce personnage qui enlevait juste les lunettes et qu'on ne le reconnaissait pas. Et c'est la seule série qui a traité ce problème de front, quand c'est en fin de saison 2 d'épisode 18, j'ai revérifié.
Retour vers le passé.
Exactement. Où en fait, il y a un méchant qui lui explique qu'elle connaît déjà Superman et elle dit mais je connais pas Superman. Et il prend les lunettes de son... Et le méchant prend les lunettes de son camarade, il fait et puis en fait, il enlève les lunettes et fait Clark Kent, Superman, Clark Kent, Superman. Et il lui dit clairement, il dit mais vous êtes la femme la plus idiote de les galaxies. Et je trouvais ça... c'était excellent parce que c'était vraiment traité de fond. Que oui, le mec change juste de lunettes en fait, et c'est stupide.
C'était le grand méchant de, enfin il y avait donc qui s'appelait Tempus, qui est joué par un mec qui jouait dans Santa Barbara à l'époque. Il s'amusait là dans ce rôle là parce qu'il y avait Tempus et il y avait H.G. Wells, donc le fameux auteur de science-fiction, qui était un personnage aussi qui voyageait dans le temps. Et là il va voir Superman et Lois qui dit faut que vous retourniez dans le passé à Smallville parce qu'il y a un problème, Tempus veut effacer l'arrivée de Superman sur Terre. Et donc ils vont dans le passé 40 ans avant, enfin 30 ans avant. Et oui, non, enfin cet épisode était génial quoi. Et Tempus reviendra dans plusieurs épisodes et c'est toujours très bien.
Non mais voilà, c'est vrai que je trouvais Et la série avait ce mariage, parce que c'est la première fois du coup que Superman se mariait. J'ai lu que...
T'imagines Superman divorcé avec des enfants.
Bah ça, alors ils l'ont fait pour un super-héros, ça s'appelait Spider-Man, c'est dans The Spider-Verse du coup, sans enfants, mais ils abordaient... Non, mais et du coup les comics du coup DC avaient fait un comics spécial sur ce mariage Superman-Lois.
C'est vrai. En fait, ils ont essayé de s'accorder comics et séries pour que le mariage se passe en même temps. Quoi. Ouais, ouais.
Et du coup, ça a aidé, du coup, ça aussi, la série a aidé à révolutionner, un peu comme je parlais tout à l'heure de Batman, Lois et Clark a aussi un petit peu révolutionné le personnage de Superman, au-delà de la série, aussi dans la BD. Quoi. Ça a permis de le faire évoluer également, donc rien que pour ça, je pense que c'était pas mal. Enfin, ça reste culte.
Oui, le Lex Luthor était pas mal, le générique reste un grand classique avec une très bonne musique qui rappelle vraiment toutes les musiques, finalement, tous les thèmes de Superman. Et non, 4 saisons, il y a du bon, du moins bon, mais ça se laisse vraiment regarder. Quoi. Mais il faudra vraiment remasteriser parce que l'image est dégoûtante, dégueulasse.
Ouais, moi, c'est surtout les effets spéciaux qui font mal maintenant.
Oui, tu sais en plus quand ça arrive parce que l'image change, parce que ça a été traité sur ordinateur, je sais pas quoi. Tu vois l'image change de contraste, donc tu sais qu'il va y avoir un effet spécial. Quoi.
Ça vieillit, mais mine de rien, pour ce que ça a amené, ça a toujours cette aura.
Oui, mais c'est une belle histoire, c'est léger.
Disons que voilà, on vous conseille pas forcément de le revoir, mais en tout cas, enfin, de le découvrir. Mais
niveau
tout...
adaptation, c'est pas méga fidèle. Il y a 2-3 trucs qu'ils essayent et tout. Il y a des méchants, mais ouais, c'est pas de l'action, y a pas de violence, c'est gentil.
Juste, voilà, ayons conscience de ce que ça a amené, de ce que ça a fait à l'époque, mais voilà, c'est pas non plus une obligation de revoir ça. En tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup à tous.
Je remercie Fanny et Tom d'être là avec moi comme chaque dimanche. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine sur TC13 et puis à dimanche prochain pour une nouvelle émission du Club d'Orloté.
À bientôt.
Bonne nuit.
On se quitte sur...
Eh ben, on se quitte sur un classique. Je me demande pourquoi on l'a pas passé plus tôt. C'est AA avec Take On Me, meilleure chanson du monde.